Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du Monde Aujourd'hui du 9 décembre 2020. Eric Manelakidza en votre compagnie. D'abord le sommaire. Le Ghana, dans l'attente des résultats de la présidentielle marquée par la mort de 5 personnes dans des incidents isolés. Les États-Unis et l'ONU condamnent les violences au Parlement à Kinshasa. Au Soudan, des tensions entre civils et militaires au sommet de l'État. Plusieurs pays ont commencé à vacciner leur population contre le Covid-19. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, juste après le journal. La présidentielle et les législatives au Ghana ont finalement été marquées par des violences qui ont fait au moins 5 morts et 17 blessés depuis lundi. Alors que le temps monte entre les deux principaux candidats, toujours dans l'attente des résultats. Le point avec Abdelrahman Dia.
Selon la police ghanéenne, entre lundi et mercredi, 21 incidents violents liés directement aux élections ont été recensés à travers le pays. 5 personnes ont été tuées par balle, toujours d'après la police. Après un scrutin qui s'est déroulé dans le calme, le ton s'est subitement durci entre le gouvernement et l'opposition. La commission électorale a appelé le pays à être patient et a publié les résultats de 7 régions sur 16, plaçant le candidat de l'opposition John Mahama en tête devant le président sortant Nana Akufo-Addo. Elle avait annoncé qu'elle pourrait publier les résultats en 24 heures, comme ce fut le cas lors du précédent scrutin, mais s'est rétractée en blâmant pour ce retard les fortes pluies qui se sont abattues dans certaines régions du pays. Mardi soir, John Mahama a prévenu qu'il résisterait à toute tentative de vol du scrutin. De son côté, la présidence avait publié des estimations donnant le chef de l'État sortant vainqueur, contrairement au protocole en vigueur. La commission électorale est en effet la seule autorité habilitée à annoncer les résultats officiels et à proclamer le vainqueur.
Des ONG nigériennes ont déposé aujourd'hui au parquet de Niamey une plainte contre X dans l'affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées à l'armée ces dernières années. Selon un communiqué, ces ONG demandent au procureur de la République d'ouvrir une enquête pour détournement de biens publics, corruption d'agents publics nationaux, corruption dans le secteur privé, trafic d'influence et faux et usage de faux en écriture. En République démocratique du Congo, les Nations Unies condamnent les incidents violents de lundi et mardi au Parlement. Les partisans du président Félix Tshisekedi veulent renverser la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila. Le point avec Michel Joseph.
Soutien inconditionnel du président Félix Tshisekedi, l'ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, a estimé que la RDC a l'occasion historique de mener à bien les réformes nécessaires. Il appelle tous les acteurs à s'abstenir de toute violence. La représentante des Nations Unies, Leila Zerougui, aussi condamne les incidents violents qui ont eu lieu au palais du peuple à Kinshasa. Madame Zerougui a appelé tous les représentants des partis politiques et leurs militants au calme et à la responsabilité afin de résoudre cette crise. Lundi et mardi, des violences ont éclaté au Parlement entre les partisans du président Tshisekedi et ceux de la majorité parlementaire, fidèles à son prédécesseur Joseph Kabila. Dimanche, M. Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition au pouvoir et la recherche d'une nouvelle majorité à l'Assemblée. Le Front commun pour le Congo, le FCC pro-Kabila, a dénoncé un coup d'État constitutionnel.
Près de 7000 violations des droits de l'homme ont été perpétrées de janvier à octobre en RDC, une augmentation de 35% par rapport à la même période en 2019, a affirmé aujourd'hui le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Le conflit en Éthiopie est hors de contrôle, a estimé aujourd'hui Michelle Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. La situation en Éthiopie est vraiment inquiétante et explosive. Les combats continuent au Tigré, bien que le gouvernement a affirmé le contraire, a souligné Madame Bachelet au cours d'une conférence de presse à Genève, insistant sur l'impact du conflit sur les populations civiles. Au Soudan, montée des tensions entre civils et militaires au sommet de l'État, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, critique l'exécutif composé à majorité de civils et salue le rôle de l'armée. Yacouba Ouedraogo.
S'adressant à une unité de l'armée au sud de Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui préside le Conseil souverain, composé de 6 civils et 5 militaires, a assuré que le Conseil a échoué à répondre aux aspirations du peuple et de la révolution de 2018. Il a appelé à achever la mise en place du Conseil législatif. Cette instance de 300 membres devait voir le jour 3 mois après l'accord de transition en août 2019, mais a été repoussée à la fin de l'année. En revanche, le général Burhan a fait l'éloge des forces armées qui, selon lui, restent la première force à défendre le peuple. Les relations entre civils et militaires se sont détériorées depuis la création début décembre par un décret du général Burhan d'un conseil des partenaires de la transition doté de toutes les prérogatives pour exercer son pouvoir. Ce décret a suscité une levée de boucliers au conseil des ministres dirigé par Abdallah Hamdok qui estime que le général Burhan avait outrepassé ses prérogatives, ce que rejette le général Burhan.
La Russie a signé avec le Soudan un accord lui permettant la création d'une base navale en mer Rouge. Moscou établira au Soudan un centre de support logistique où pourront être assurées des réparations, des opérations de ravitaillement et le repos de membres d'équipage de la marine russe. Cette base pourra accueillir au maximum 300 militaires et personnel civil, ainsi que 4 navires. La Russie va avoir le droit de transporter via les ports et aéroports du Soudan des armes, des munitions et des équipements pour le fonctionnement de cette base navale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé aujourd'hui d'inoculer le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le nouveau coronavirus aux personnes ayant eu dans le passé d'importantes réactions allergiques. Nathalie Barge fait le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.
Aux États-Unis, le président sortant Donald Trump a prévu la vaccination de 100 millions de personnes d'ici début mars. Les vaccins Pfizer et Moderna se prennent en 2 doses. En Grande-Bretagne, les autorités sanitaires ont déconseillé d'inoculer le vaccin Pfizer-BioNTech à des personnes qui ont déjà eu de sérieuses réactions allergiques. Israël a reçu ses premiers vaccins Pfizer et le chef du gouvernement Benjamin Netanyahou dit vouloir être le premier à se faire vacciner pour donner l'exemple. Les Émirats arabes unis ont approuvé le vaccin Sinopharm, le disant efficace à 86%. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier avec fermeture des écoles et des magasins non alimentaires. En France, le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi si le confinement pourra être levé comme prévu le 15 décembre.
Le Canada a annoncé avoir approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech, devenant ainsi le 3e pays après le Royaume-Uni et Bahreïn à donner son feu vert. Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau avait annoncé lundi que la vaccination des Canadiens pourrait commencer dans les jours qui suivent l'approbation par le ministère de la Santé. Le premier vol Covid-free entre les États-Unis et l'Europe est arrivé mercredi à Rome en provenance de New York. Les passagers devaient avoir fait un test Covid-19 négatif dans les 48 heures avant le départ du vol Alitalia de l'aéroport John F. Kennedy et en effectuer un autre à l'arrivée à l'aéroport Fiumicino de Rome. Les tests des 100 passagers à bord se sont tous révélés négatifs, ce qui leur a permis d'éviter la quarantaine de 14 jours imposée à ceux qui viennent des États-Unis. Tous les passagers de ce vol ont dû porter un masque durant tout le trajet et le remplacer toutes les 4 heures, selon les autorités aéroportuaires. L'Agence européenne des médicaments qui délibère actuellement sur la délivrance et d'autorisation à plusieurs vaccins contre le Covid-19 s'est dite aujourd'hui victime d'une cyberattaque. L'agence basée à Amsterdam a indiqué que l'incident faisait l'objet d'une enquête sans préciser quand l'attaque a eu lieu. La Russie a appelé aujourd'hui l'Iran à faire preuve d'un maximum de responsabilité et à ne pas tomber dans la surenchère dans la crise autour de l'accord international sur le nucléaire iranien. La France salue sobrement aujourd'hui la mémoire de l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing, décédé il y a une semaine. Une minute de silence a été observée dans plusieurs institutions et les drapeaux ont été mis en berne. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez la Minute Éco signée Nathalie Barge.
Les investisseurs opérant sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine ont fortement répondu à l'adjudication de bons du Trésor de l'État ivoirien dénommé bons social Covid-19. La Côte d'Ivoire sollicitait 110 milliards de francs CFA. L'agence UMO à titre a répertorié près de 620 milliards de soumissions. Les plus gros montants retenus proviennent du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Togo. La vérificatrice générale de l'Afrique du Sud a déclaré que le programme de secours contre le coronavirus de 148 milliards de randes a été entaché d'irrégularités et d'une possible fraude. Les conclusions du rapport ont renforcé celles d'un précédent audit. Sur 148 milliards de randes affectés à ce paquet, 96 milliards avaient été dépensés au 30 septembre. Depuis lors, 3,4 milliards déboursés indûment ont été récupérés, a déclaré Tsakani Maluleke. La Zambie a déposé une demande de financement de réforme auprès du FMI, indique l'institution financière dans un communiqué. Le pays, dont la dette extérieure est estimée à plus de 12 milliards de dollars, a déclaré récemment ne plus rembourser aucun créancier après avoir manqué une échéance de plus de 40 millions de dollars dans le remboursement d'une obligation de 760 millions qui arrive à échéance en 2022.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. C'est le fait marquant depuis hier. Le ras-le-bol, un tournant, l'interruption frappante. Dès la 14e minute du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Başakşehir Istanbul, après des propos d'un arbitre reçoit un soutien unanime du monde sportif. Ce match de la 6e journée du groupe H se rejoue ce soir, mais ce sera sans le corps arbitral roumain qui officiait lors de cette rencontre, qui a désormais valeur de symbole. En cause, le comportement de l'arbitre délégué Sébastien Coltescu, voulant asséner un carton rouge pour protestation à l'entraîneur adjoint, le Camerounais Pierre-Achille Webo. Il a désigné à l'arbitre principal Ovidiu Ategan comme le noir en roumain. Les joueurs et l'encadrement du club turc ont laissé éclater leur colère, rejoints par ceux du Paris Saint-Germain pendant de longues minutes de discussion avant de quitter la pelouse de concert. Une décision jamais vue au plus haut niveau dans le monde du football, souvent taxée de laxisme et d'indifférence sur ce sujet. Interrogé ce matin à Paris, quelques fans du PSG apprécie le geste des deux équipes.
Ça existe depuis toujours, mais il n'y avait vraiment jamais eu de réaction. Là, la solidarité qui a été montrée entre les deux équipes là, était vraiment intéressante. Je pense que c'était la meilleure chose à faire.
C'est super. Aujourd'hui, on sait que juste des joueurs sont sortis du terrain parce qu'il y a des propos racistes. Alors, ils ont eu raison ou pas, ils l'ont fait. On respecte le choix. Si derrière, ça amène quelque chose pour qu'il y ait moins de racisme ou éradiquer le racisme dans le football, alors là, ce serait parfait. Et pas que dans le football, d'ailleurs.
Le mot « négro » en roumain, c'est « noir ». C'était une bêtise de sa part de pointer la personne en disant ça. C'est vrai qu'il aurait pu le nommer autrement. Mais est-ce qu'il est foncièrement raciste? Je ne sais pas ce qui serait passé si le joueur était d'origine maghrébine. Comment il l'aurait dit? Est-ce que c'est l'arabe là-bas? Ou ouais, là, ça aurait pu prêter à confusion. Negro, en roumain, c'est noir. Et il est possible que le type ne soit pas raciste du tout. Comme il est possible qu'il le soit.
L'UEFA a finalement annoncé tard mardi, alors que la polémique faisait rage depuis plusieurs heures, l'ouverture d'une enquête approfondie. Elle a désigné un inspecteur disciplinaire et suspendu le carton rouge d'où est parti le scandale, permettant à Pierre-Achille Webo d'être présent pour les 76 minutes restantes du match. L'expérimenté néerlandais Danny McKelly sera au sifflet. À suivre aussi ce soir, entre autres rencontres, Real Madrid Borussia Mönchengladbach, Manchester City Olympique de Marseille, Ajax Atalanta Bergame ou encore Midtjylland Liverpool.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, de retour avec vous, Eric Manilakiza, pour aborder les dossiers du jour. En RDC, le bras de fer se poursuit entre le camp du président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila en vue d'avoir le contrôle de la majorité au Parlement. Eddy Issango a joint à Kinshasa le président de l'organe appelé Commission électorale indépendante de l'UDPS, parti au pouvoir, Maître Jacquemaine Chabani, président de l'organe appelé Commission électorale indépendante de l'UDPS.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d'un discours solennel, a invité la classe politique, mais aussi toutes les forces vives de la nation. Ça s'est fait de la façon la plus cordiale et même républicaine possible. Les amis du FCC ne peuvent pas parler d'un coup de force. Et tout ceci se fait conformément aux prescrits de la loi suprême, de ses prérogatives constitutionnelles, mais aussi les activités ou ce qui se passe actuellement au Parlement se fait dans le respect du règlement intérieur du Parlement.
L'ordre intérieur du Parlement interdit d'échanger la majorité au cours de la législature.
Il ne l'interdit pas. C'est peut-être vrai qu'une disposition parle du début de la législature, mais je ne crois pas que le législateur congolais pouvait se permettre un seul instant à partir du moment où, au cours d'un mandat de 5 ans de législature, la tendance au niveau d'une assemblée change de camp ou change d'orientation ou d'idéologie politique. Je ne vois pas le législateur congolais se permettre d'être aussi rigide pour permettre aux honorables députés à qui il est interdit d'avoir un mandat impératif de réorienter leur vision politique. Donc nous sommes en démocratie. Cette question va être débattue entre élus du peuple de la façon la plus libre, démocratique et souveraine possible. Ils vont, à la demande du président de la République, voir les voies et moyens de réorienter la gouvernance en République démocratique du Congo.
Par quelle magie la majorité peut basculer? Il y a l'autre camp, celui de l'ancien président Joseph Kabila qui vous accuse de corruption.
Ce n'est pas de la magie, c'est un exercice politique. Tout est basé sur un état des lieux, une vision, une nouvelle orientation. Nous avons constaté hier, par exemple, le bureau de l'Assemblée nationale estimait être convaincu d'avoir une majorité de plus de 300 députés. Nous avons tous constaté hier que le bureau provisoire a été mis en place avec un peu plus de 267 députés. Donc c'est un exercice démocratique, c'est des élus nationaux face à leurs responsabilités et chacun prend l'orientation qu'il estime être bonne pour le pays, pour la République. Il n'est pas question de corruption, il est question d'opinion et de volonté politique de tout un chacun.
Et si une nouvelle majorité ne se dégageait pas comme le souhaitent les présidents de la République, aura-t-il des atouts pour organiser des élections dans les temps et comment va-t-il le faire dans la mesure où il n'y a même plus un bureau au niveau de la Commission nationale électorale?
Non, le président a été très clair sur ce. Il s'était adressé principalement aux élus qui vont, à travers l'informateur qui sera désigné, faire cet exercice-là.
Maître Jacquemaine Chabani, président de l'organe appelé Commission électorale indépendante de l'UDPS.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, Félix Tshisekedi rompt avec le FCC de Joseph Kabila et veut une recomposition de la majorité parlementaire avec la nomination d'un nouvel informateur. Une décision qu'il a prise à l'issue des consultations politiques lancées le mois dernier. Les alliés de l'ex-président, toujours majoritaire au Parlement, disent avoir pris acte. Quelles sont les options du président Tshisekedi pour obtenir une majorité parlementaire? Quelles conséquences politiques de ce bras de fer FCC cash? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 10 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAafrique.com.
L'ambassadeur itinérant Nathan Sales, haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme, se dit préoccupé par la détérioration de la situation au Mozambique, où des extrémistes liés au groupe État islamique occupent une partie du nord-est du pays. Toutefois, il souligne que l'action militaire n'est pas la réponse. De Johannesburg, reportage d'Anita Powell, récit de Michel Joseph.
Pendant 3 ans, le nord du Mozambique a été le théâtre d'attaques d'un groupe islamiste très peu connu. Elles ont fait plus de 2 000 morts et de 400 000 déplacés dans la province de Cabo Delgado. Le conflit s'est récemment étendu à la Tanzanie voisine, avec le risque de plonger toute la région dans l'instabilité. L'ambassadeur itinérant américain Nathan Sales s'est récemment rendu au Mozambique et en Afrique du Sud pour voir comment les États-Unis peuvent aider à contenir et défaire ce mouvement djihadiste. Selon lui, dans une situation aussi compliquée, la réponse militaire ne suffit pas.
En plus des défis sécuritaires posés par les acteurs du groupe État islamique là-bas, nous avons aussi des conséquences du point de vue humanitaire avec des centaines de milliers de Mozambicains fuyant la violence. Ainsi, une partie de la réponse doit prendre en compte les besoins humanitaires. Nous devons parvenir à contrôler la situation sécuritaire pour que les gens sentent qu'ils peuvent retourner chez eux en toute sécurité.
Alex Vines, directeur du programme Africa Chatham House, fait remarquer que la province de Cabo Delgado recèle d'immenses gisements de pétrole et de gaz d'une valeur de 60 milliards de dollars. L'instabilité empêche l'exploitation de ces ressources. Par ailleurs, le groupe extrémiste devient de plus en plus audacieux dans la région à cause des échecs du gouvernement mozambicain.
So there's local grievance, there's real frustration that the Mozambican state, the party of government in particular.
Ce sont les grièves locaux, une réelle frustration que l'État mozambicain n'a pas accompli sa mission, si bien que cela fait des frustrés parmi les jeunes. L'impact du cyclone Kenneth de l'année dernière est là et la faible réponse humanitaire amène les gens à éprouver de la sympathie pour l'insurrection.
Nathan Sales reste vague quant à l'aide que les États-Unis peuvent apporter au Mozambique.
What we need to do is make sure that we in the United States are making available to our Mozambican partners.
Ce dont nous avons besoin, c'est de nous assurer que les États-Unis mettent à la disposition de nos partenaires mozambicains tout ce que nous avons comme capacité pour les aider à réduire et en fin de compte éliminer cette menace terroriste.
Le pape François vient d'annoncer un don de 121 000 dollars pour aider les victimes des attaques djihadistes dans la province de Cabo Delgado.
La capitale sénégalaise, Dakar, abrite la troisième édition du Festival international de courts-métrages du 7 au 12 décembre. Au total, 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora d'Europe, d'Amérique et de l'océan Indien. Le comité de sélection a retenu les 12 courts-métrages de fiction pour la compétition officielle. Parmi ces films, celui de la réalisatrice burkinabé Maïmouna Ndiaye, qui nous parle de son œuvre intitulée Majigui et du festival. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Majigui, entendez résilience, est l'histoire d'une femme socle de son foyer, comme dans la plupart des couples, dit la réalisatrice du film, Maïmouna Ndiaye.
Dis, tu as eu Auguste au téléphone?
Je lui ai laissé un message.
Mais écoute, maintenant que votre union est officielle. Et en attendant que ton mari trouve une maison, il peut bien venir habiter avec nous ici. Hein.
Majigui, c'est un terme en djoula. Imajigui, ça veut dire « attrape ton cœur » en traduction littérale. C'est ce que ça veut dire, c'est une forme de résilience en fait. Le film traite de l'histoire d'une femme résiliente, on va dire. J'ai voulu montrer en fait la force et la capacité des femmes de porter des choses, de porter la vie, de porter un foyer. Dans un foyer, la femme, c'est le pilier du foyer. Tout peut mal partir d'elle et tout peut bien se passer aussi grâce à elle.
La pandémie de nouveau coronavirus a durement frappé l'économie mondiale en général, celle de l'industrie cinématographique en particulier. Salles de ciné fermées, rassemblements interdits. Le monde des artistes en a beaucoup souffert, mais cela a été un tremplin pour Maïmouna dans l'écriture de son film.
J'ai écrit ce film et je me suis dit, je ne vais pas le laisser dans les tiroirs. On l'a tourné avec très très peu de moyens, en équipe réduite, et on a réussi à le faire tout en respectant les mesures barrières. On a fait ce film avec une jeune production dirigée par Oumar Dagnon, Wati Film. Tout ce qui arrive au film en ce moment, on ne s'y attendait absolument pas, donc c'est un bonheur.
Avant d'ajouter cette corde d'auteur-réalisatrice à son arc, Maïmouna Ndiaye s'est faite connaître en tant que comédienne de théâtre et de cinéma. Elle a tourné dans plusieurs films au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, où elle est beaucoup connue à travers la série à succès Superflic. Dans sa nouvelle aventure, dans la réalisation, Maïmouna a sorti Pauline, l'amour en action, entre autres, et a aussi réalisé des documentaires dont Warba Saga, Balan, Recreatal, Amando, tranche de vie.
La jeune femme qui vient de sortir de mon bureau s'est présentée à nous en disant qu'elle était sa compagne. Mais malheureusement, elle n'est ni du même groupe sanguin que lui, ni son épouse légale.
Sa nouvelle trouvaille Madjigui a été retenue à la 3e édition du Festival de courts-métrages de Dakar. Ce film, comme 11 autres, ont été sélectionnés parmi 213 candidatures en provenance d'Afrique et de la diaspora d'Europe, d'Amérique et de l'océan Indien.
La meilleure récompense pour moi, c'est que le public voit le film. Donc je l'ai fait dans cette optique-là. J'ai fait juste le film parce que j'avais envie d'exprimer quelque chose. Je l'ai exprimé et maintenant je veux le partager.
Faire voir justement ces films de jeunes réalisateurs, c'est l'objectif visé par le directeur du Festival des courts-métrages de Dakar, Moly Khan, qui a offert cette plateforme aux amoureux de la réalisation comme Maïmouna Ndiaye.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a perdu des dizaines de poursuites judiciaires pour faire annuler la victoire du président élu Joe Biden. Le 8 décembre marquait la date limite de la zone de sécurité où les États doivent finaliser la certification de leurs résultats électoraux, ce qui limite davantage la capacité de Trump à les contester. Le reportage de Patsy Widakuswara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Lionel Lunanira Gahima.
5 semaines après les élections du 3 novembre, il y a encore des célébrations et protestations des partisans de Trump.
USA, c'est une fraude. L'élection a été volée. Elle a été truquée.
Après plusieurs recomptages du scrutin par les États et des dizaines de poursuites judiciaires, rien de tout cela n'a changé les résultats. Joe Biden a remporté les élections de 2020, mais le président Donald Trump n'est pas prêt à reconnaître sa défaite.
Nous n'avons jamais perdu une élection. Nous gagnons cette élection.
Ce mardi était la date limite à laquelle les États devaient résoudre les questions juridiques, y compris le recomptage, les audits et finaliser la certification de leurs résultats. Aziz Hook est professeur de droit constitutionnel à l'Université de Chicago.
La fin de la zone de sécurité n'est qu'un autre clou sur le cercueil des efforts du président pour renverser le résultat de l'élection au tribunal par de fausses allégations de fraude.
Les résultats finalisés à cette date sont considérés comme définitifs par le Congrès. Tous les États ont certifié, sauf Wisconsin, qui devrait certifier cette semaine au plus tard. John Fortier, directeur des études gouvernementales au Centre de politique bipartisane.
Mais si une élection est certifiée après le 8 décembre et que les électeurs sont sélectionnés et qu'ils sont sélectionnés avant le 14 décembre, date à laquelle ils ont effectivement voté, le Congrès pourrait certainement compter ses votes lors du décompte en janvier.
Le président Trump a lancé des dizaines d'actions judiciaires dans cet État que sont l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Il a remporté un procès, mais en a perdu plus de 40. La Cour suprême a rejeté ce mardi l'appel d'une décision d'un tribunal dans un procès visant à annuler le vote en Pennsylvanie. Ce qui a encore surchauffé les partisans de Trump. Bill Barr, ministre de la Justice de Trump, a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de fraude. Mais les résultats de Trump, parfois armés, continuent de menacer les responsables électoraux, poussant l'un d'entre eux, un républicain, à se défendre. Gabriel Sterling, responsable électoral dans l'État de Géorgie.
It has to stop.
Il faut que ça cesse, Monsieur le Président. Vous n'avez pas condamné ces actes ni ce langage.
Après des défaites au tribunal, Monsieur Trump est intervenu en faisant pression sur les responsables et des législateurs de la Géorgie, du Michigan et de Pennsylvanie pour qu'ils annulent les résultats. Bien que ces tentatives aient échoué, elles ont révélé les vulnérabilités du système électoral américain. Le 14 décembre, les 538 grands électeurs qui forment les collèges électoraux se réuniront dans les villes du pays pour voter officiellement et élire le futur président et vice-président des États-Unis.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, à la mise en onde de Lionel Lunanira Gahima et Michel Joseph. À la présentation, Eric Manirakiza. On reste en contact sur Facebook.